Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire et ce soir, comme tous les deuxièmes mardis du mois, c'est Radio Libertalia et l'émission de la CNT Éducation, des syndicats éducation donc de la région parisienne. Donc ce soir, jusqu'à 22h30, on a pas mal de compagnie pour parler de la scolarisation, enfin entre autres hein, au sens très large, de la situation et de la scolarisation des jeunes Roms en France. Et pour ça, on a plusieurs invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avons Isabella Novakovici, bonsoir.
Bonsoir.
Qui est collégienne en France. Yasmina Dragomia.
Bonsoir.
Qui travaille avec l'association Intermed. Laquelle association a aussi pour représentant ce soir Laurent Hoth. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Isabelle Hoth, qui est là en qualité de témoin muet ce soir. Mais on ne sait jamais. Donc on va... l'association Intermed, je vous laisserai la présenter, qui est basée à Longjumeau, qui fait un travail en pédagogie sociale, en particulier avec des Roms. Donc ça, je vous laisserai évidemment décrire tout ça. Donc ça nous intéressait de parler de cette question-là. On ne l'a pas fait encore. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait en tout cas dans l'émission. Parce que bon, dans un contexte où il y a quand même un discours sur les Roms qui atteint des sommets de racisme avec des clichés incroyables qui sont véhiculés, une xénophobie qui est très palpable, avec des discours qui vont de ceux du ministre de l'Intérieur qui nous dit que les Roms n'ont pas vocation à rester en France, qu'ils n'ont aucune capacité à s'intégrer, aucun désir même de s'intégrer... Bon, ça c'est ce qu'on entend au sommet de l'État, mais c'est des discours qu'on entend malheureusement beaucoup dans la vie quotidienne, y compris dans notre milieu professionnel, dans le milieu enseignant, dans la société en général. Voilà, il y a ce discours, il y a aussi des attaques qui sont bien réelles, avec des expulsions de campements qui ont explosé depuis quelques années. J'ai quand même pris quelques chiffres, hein. Mais parce que je trouve que c'est assez parlant. Oui. En 2010, il y a 3034 personnes qui ont été évacuées de force de campement. En 2013, il y en a eu 21 537, pour une population qui est d'environ 17 000 personnes. Ça veut dire que chaque personne, en moyenne, a été expulsée plusieurs fois.
Oui.
Donc c'est quand même, ça montre quand même la grande précarité et la grosse répression que subissent les populations roms. Donc dans ce contexte-là de discours xénophobes et racistes, de répression policière, j'ai pas parlé des évacuations, enfin des expulsions hors du territoire, mais ça valait vraiment la peine, à notre avis, de donner la parole aux premiers concernés et à ceux qui travaillent avec eux. C'est pour ça qu'on vous a invité. Et de voir un petit peu quelle est la réalité, justement, à la fois de la volonté et des difficultés de scolarisation et du travail que font les uns et les autres pour permettre à la fois aux gens de vivre là où ils veulent, comme ils le veulent, et tout simplement. Donc, je vous propose de commencer par toi, Yasmina. Donc, toi, tu es arrivée en Roumanie à quel âge ?
En France, pardon.
Tu viens de Roumanie et tu es arrivée en France ?
À 14 ans.
À 14 ans. Donc, quand tu es arrivée en France, tu avais déjà été scolarisée en Roumanie ?
Oui, j'avais... je sais pas comment dire en français, mais après j'avais envie de finir le collège et le lycée et d'avoir un diplôme ici en France, mais c'était pas possible parce que j'étais roumain et que je crois que j'étais grand, mais je sais pas après.
Et qu'est-ce qui a rendu impossible finalement, t'as jamais pu être scolarisé dans le système éducatif traditionnel, qu'est-ce qui a fait que ça a pas été possible
ici en France?
Oui.
Parce que j'étais d'origine roumaine et que je parlais pas français, mais j'étais juste entendu arriver et que j'étais sur un terrain. C'était ça.
Oui, parce que a priori tu avais 14 ans, donc tu étais encore en âge d'être de scolarisation obligatoire.
Ouais.
Donc ça veut dire que la commune où tu habitais a pas voulu t'inscrire?
Ouais.
Et quels étaient ses arguments?
Ça, après, je sais pas, parce que une fois qu'elle m'a refusé, j'étais sûre qu'elle m'a refusé tout le temps, franchement, je suis sûre que tout le monde ne m'accepte pas parce que j'ai sur moi et que je ne parle pas français et que des trucs comme ça. Mais après, quand je commençais à faire le cours de français à Ris-Orangis, et comme ça, il m'a aidé un petit peu pour prendre le français. Mais quand même, je n'ai pas fini toute mon école.
Et donc, les cours de français, tu les as pris dans quel cadre, avec qui?
Avec M. Laurent Haute, qui l'a cherché pour moi un cours de français, parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire quelque chose pour moi, et qu'on a trouvé une à la Ris-Orangis, qui, là, j'ai fait 8-9 mois de cours de français.
D'accord. Et quand tu es partie de Roumanie pour venir en France, tu étais avec ta famille?
Non, je n'étais pas avec ma famille, j'étais juste avec mon frère.
D'accord. Et est-ce que tu t'attendais à ça en arrivant?
Pas du tout. Je ne m'attendais même pas que je vais habiter dans un terrain avec plein de Roumains et que tout le temps en France, il y a une quelque chose qui est tout réfuse parce que tu es Roumain et qu'il y a quelque chose qui fait différent entre Roumain et Français. Et c'est quoi le différent entre le roumain et le français? C'est juste la langue et le pays, parce qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même. Mais après, pour refuser tout le temps le roumain, je ne sais pas pourquoi.
Bien, donc tu as été un peu déçue en arrivant.
J'étais super surprise parce que... Pardon. Parce que voir le français qui elle arrive de sur ton terrain, il y a le police qui arrive tout le temps, le matin il sort, elle tape dans la porte, sortir, montrer le papier, il y a l'Amérique, il arrive tout voir, mais pas pour t'aider, bien sûr, pour trouver quelque chose de mal pour Romain. Mais après, je ne croyais pas que c'est comme ça. Je croyais qu'on est Romain, on est Français, qu'elle ne fait pas le différent, qu'elle ne refuse pas, qu'elle n'accepte qu'on est Romain et qu'on vit dans un terrain.
Donc le fait de vivre dans un terrain, c'était pas spécialement... c'était parce que c'était là que tu connaissais des gens, parce que t'as pas réussi à avoir de place dans des foyers, des hôtels, des hébergements. C'était pas un choix spécialement.
Après, si, parce que dans un foyer, j'aime pas moi de rester dans un foyer. Et après, il y avait mon frère qui est là, il était en France depuis 2 mois. Et que lui, il connaît déjà le roumain, il connaît le français, que tout le monde. Nous, le roumain, comme on n'a pas droit à avoir une maison, un appartement, quelque chose comme ça. On est obligé de rester dans un caravane sur un terrain.
Oui, c'est ça. C'est pas parce que je pense que pour beaucoup de gens en France, il y a l'image aussi que les Roms sont des gens du voyage et qui vivent en caravane parce que ils sont voués à circuler. C'est pour ça que je pose la question. Je pense que c'est bien de dire que bon, c'est aussi parce que tout simplement il y a que ça pour arriver et poser ses bagages, quoi.
Mais ouais, parce que quand tu arrives en France, tu ne peux pas tout de suite trouver un appartement. Quand quelqu'un t'aide avec plaisir et avec le cœur ouvert, que tiens, t'es Romain, viens, je t'aide et tout ça. Et c'est normal parce que nous, on est obligés de rester sur un terrain.
Et donc, tu as vécu, toi, ces situations d'évacuation forcée de terrain quand tu...
Quand j'arrivais, c'était un peu bizarre pour moi pour voir plein Romain, parce qu'en Romain, il n'existe pas de terrain de vivre ensemble avec plein Romain. Ça, c'est normal, mais après, j'ai trouvé que c'est mieux de rester en France pour faire une vie. Parce qu'en Romain, si t'es mineur, tu n'as pas droit encore de travailler jusqu'à 18 ans. Tu n'as pas droit de faire un stage, tu n'as droit à rien. Et que là, en France, tu as droit quand même de travailler, de trouver un stage, de faire quelque chose pour toi. Et que moi, j'avais envie de faire franchement quelque chose pour moi. Et enfin, j'ai réussi, mais c'était super dur.
Et alors justement, qu'est-ce que tu fais maintenant?
Là, j'ai travaillé. Là, j'ai travaillé à Intermed Robasson.
Donc Intermed, l'association que j'ai présentée et que vous allez...
Oui. Et que là, c'était déjà de vendredi jusqu'à aujourd'hui, j'ai un appartement. Jusqu'à maintenant, j'habitais 9 mois dans un hôtel. Que c'était super, nous, il n'y avait pas de cuisine, pas juste une micro-ondes, et c'était super dur. Et là, j'ai un appartement, je suis super contente, mais c'était dur de voir cet appartement. On se bat depuis 3 ans pour cet appartement, avec l'assistance sociale, avec plein de monde, mais on n'a jamais gagné. Et même pour le travailler ici en France, c'était dur à commencer mon travail, parce que la préfecture, il a refusé tout le temps. Il n'a refusé parce que tu n'as pas le papier, il manque des choses, mais ce n'était pas normal de refuser. Parce qu'on avait tout, il a demandé le certificat, on a fait, il a manqué les choses, mais bon, on a réussi, mais c'était super dur.
Mais du coup, tu as été suffisamment soutenue aussi, j'imagine, pour t'accompagner dans ces démarches et pas te décourager, quoi.
Ah ouais, grâce à M. Laurent Haute et à sa femme, Hélène Haute, et à l'assistant social.
Non, mais faut rendre hommage à... Et donc, tu travailles maintenant pour l'association ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais alors, dans le cadre de l'association ?
Là, on travaille, comme on travaille avec tout le... On travaille avec tout le monde, avec tout le monde, sans faux, n'importe quel âge. C'est ouvert à tout le monde, gratuit. Et on travaille aussi avec le Romain, qui c'est super bien. Moi, je suis super contente que je travaille avec des moines d'origine romain. Et que quand même, il y a quelqu'un qui ne refuse jamais. L'association intermère au basson. C'est pas comme à Marie, le préfecture qui refuse tout le temps parce qu'on est romain.
Ouais, c'est ouvert.
Ouais, c'est ouvert à tout le monde.
Et alors, vous faites quoi avec les enfants ?
Alors, on fait plein d'ateliers. On fait aussi le jardin. On fait d'ateliers dans la rue, en face de l'école, hors de notre quartier. On travaille sur des terrains de romain. Je crois que j'avais oublié quelque chose. On fait des projets ados aussi.
Des projets ados ?
Oui.
D'accord.
C'est déjà pas mal.
Et tu connais beaucoup, dans le cadre de ce travail associatif, tu vois beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à être scolarisés ?
Ah ouais. J'ai vu déjà beaucoup, et il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés, qui ne peuvent pas voir l'école et qui ne peuvent pas aller parce qu'ils sont romains, comme tous les jours, et que tout le temps on refuse, mais un petit peu nous aide pour apprendre à écrire, à parler français, et à parler aussi, à écrire, à dessiner, en quelque sorte, à avancer pour l'école. Mais c'était super dur.
Ouais.
Mais encore, on a un terrain qui est uni, ça fait déjà un mois qu'il est cassé, Riz Orangis, qu'il est déjà cassé.
Six mois, oui.
Il y a aussi le...
Vissou, ça fait déjà 4 mois.
Oui, notre
terrain... 4 mois qu'ils ont été détruits.
Ah ouais.
Moulin-Galant, détruit depuis le mois de mars dernier, Évry avant, ouais. Tous les terrains de l'Essonne ont été démolis.
Et du coup, quand vous travaillez comme ça sur un terrain qui est détruit, comment vous faites pour garder le contact avec les gens avec qui vous travaillez ?
Ils sont au courant.
Vous les retrouvez comment ? Ils s'installent ailleurs rapidement ? Vous arrivez à poursuivre quand même ?
Oui.
Isabella ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Donc ça va, ça détruit pas complètement le travail que vous...
En fait, ça dépend avec qui. Il y a des familles avec qui on reste en contact. Oui. C'est le cas d'Isabella et de Yasmina et de beaucoup d'autres familles, mais il y en a beaucoup qu'on a perdu de vue. Oui. Quand un terrain est détruit, il y a beaucoup de familles qui partent même avant, parce que justement, elles ne veulent pas que leurs affaires soient détruites au moment de l'expulsion. Oui. Donc, elles vont anticiper l'expulsion. Et celles-là, nous pouvons perdre le contact. Après, il y a des familles où on n'a pas perdu le contact. On sait où elles se trouvent. C'est le cas des adolescents avec qui on travaillait, l'André aux yeux bleus, etc. Mais on n'arrive pas à les faire revenir sur nos activités, et c'est trop compliqué. On peut pas, évidemment. Nous faisons de l'animation et de l'éducation collective, et on peut pas évidemment aller voir les gens là où ils sont dans leur espèce d'éparpillement et émiettement imposé qu'on leur impose.
Bien, donc là tu t'as trouvé ta place comme travailleuse sociale en France, ouais. Maintenant.
Franchement, je suis super contente, et aussi j'ai gagné, mais c'était super dur parce que je suis romain et que j'ai pas droit. On n'avait pas droit de travailler, mais là on a droit de travailler, mais je sais pas quand, parce qu'ils demandent un col de papier, même si c'était 2014. Mais tout le temps c'est super dur. Et je veux bien savoir pourquoi tout le temps le romain y a pas droit. À plein de choses, il n'y a pas droit à la location familiale, il n'y a pas droit à travailler en France, il n'y a pas droit à la domiciliation, il n'y a pas droit aussi à l'aide médicale, qui, si tu as un problème avec santé, tu es en train de mourir, elle ne peut pas s'occuper de toi parce que tu es romain.
Et indépendamment de ces problèmes, entre guillemets, administratifs, Est-ce que ce rejet-là, tu le ressens aussi dans la vie quotidienne par rapport aux gens que tu peux croiser? Est-ce que tu ressens en clair un racisme, toi, de la part de gens que tu peux croiser, soit dans la rue, soit une méfiance, un racisme? Tu le ressens, ça?
Ah ouais, très, 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 très dur, je le sens, parce que tout le temps, tu vois, de français, de personnes françaises qui c'est juste à côté de toi et que elle voit que tu parles à la téléphone que en ton langue roumain ou que je sais pas moi quoi, tout elle dit ah le roumain c'est pas vrai, on trouve encore de roumain, ça existe partout le roumain, on a marre de roumain. Et ça c'est normal que je me sens très mal, tout le temps ils parlent des noms et quand ils voient à la télé qu'ils cassent notre terrain, qu'ils voient de roumain qu'ils partent dans nos trains avec plein de bagages, c'est normal que tout le temps ils parlent de nous. Mais je sens très mal, il y a beaucoup de racistes ici en France qui parlent de nous de Romains.
Hein. Mmh. Et toi, Isabella, tu ressens ça aussi? Oui. Dans le quotidien?
Oui.
Même des commentaires à voix haute, des propos comme oui. ça qui j'ai directement. Bien. Bon, t'as de tourner bien en France. Hein.
Et au collège aussi, tu le ressens?
Oui.
De la part des enfants ou des enseignants?
Ah, des enfants.
Des enfants.
Et alors, quel genre de choses ils te disent, par exemple, les adolescents?
Ils me disent que, ouais, toi, t'es romaine, les Romains, ils vont chercher les poubelles et je sais pas quoi.
Ouais.
Voilà. Et après, moi, je commence à les parler. Pourquoi vous dites ça? Non, on ne dit pas parce que vous êtes noir, et vous êtes ça, et vous êtes ça, et vous faites ça. Mm-hmm. Alors qu'on a tout le même, on a à chaque fois beaucoup des pays et tout ça. Mais pourquoi vous dites ça? C'est racisme, ça. Mmh. Après, ils sont fous et je sais pas quoi.
Et donc, t'as l'impression, au bout d'un moment, à force d'être là et de que vous réussissez quand même à apprendre à vous connaître et que ça part un petit peu, ces clichés-là?
Ouais.
Ouais. Et est-ce qu'au niveau de tes profs, justement, il y a un soutien ou au contraire une indifférence? Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils t'aident par rapport à ces propos-là? Est-ce que tu leur en parles?
Oui.
Et alors, ils réagissent comment?
Bah, ils disent, par exemple, ils disent que si des fois j'ai des problèmes ou quelque chose comme ça avec des élèves, bah, je vais lui parler, après il appelle aux élèves et il parle avec lui. Ou il va être exclu de cours, mmh. ou il va faire un rapport, mmh. ou il va le mettre des heures d'école, ou appeler les parents.
D'accord. Et ça, t'as l'impression que ça marche? Enfin, que ça aide à...
Ouais.
Ouais. Mm. Ça leur aide à leur faire prendre conscience que... de la bêtise de leur...
Oui.
De leur discours, quoi.
Oui.
Pour changer. Bon, bah, je vous propose de... Avant de, que tu nous racontes un peu, toi, Isabella, ton parcours, mm-hmm. De faire une petite pause musicale. Donc, c'est toi, Yasmina, qui nous a fait la programmation musicale ce soir. Alors, qu'est-ce que tu... Alors, j'ai oublié de dire que c'était Pablo ce soir à la technique. Bonsoir, Pablo.
Bonsoir.
Et je vois qu'Eddie est arrivé pour le slam de fin d'émission. Toujours l'invité surprise.
Bonsoir.
Bonsoir,
bonsoir,
Eddie.
Bonsoir.
Donc, Yasmina, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Une musique romaine. J'espère qu'elle va plaire à tout le monde. Et c'est un chant qui s'appelle numéro 5, mais je sais pas le nom parce que je peux pas savoir le prénom encore, mais je crois que c'est un chanteur que tout le monde il connaît un petit peu le roman, et je crois que c'est Nicolas Egoutte.
Moi je te propose, on va la lancer et tu vas l'écouter, tu vas le présenter, ok?
Ok,
on va le présenter.
Dedicați această melodie din partea mea, de Santo, împreună cu regele manelelor, Nicolae Guță, special pentru regele producătorilor de muzică bună, Nicu de la Pleniță!
Nevastă scumpă și frumoasă ca va mea, nu e pe lumea asta cât ai căută, să trăiască tata și măicuța ei. Cea mai frumoasă zi între femei, nevastă scumpă și frumoasă ca a mea, nu e pe lumea asta cât ai căuta, să trăiască tata și măicuța ei. Mi-a dat cea mai frumoasă zi între femei.
fericită. Nevasta mă iubește, locul și-l merită. Toate-s bune și la locul lor. Eu sunt norocos, sunt norocoșilor. Pot să spun că sunt un om bogat, din orice punct de vedere realizat. Copii, nevastă, casă și un trai frumos, să le stăpânești și să fiu sănătos. Și pot să spun, sunt omul cel mai bogat, din orice punct de vedere realizat. Copii, nevastă, casă și un trai frumos, să le stăpânești și să fiu. Am o casă liniștită și o viață fericită. Nevasta mă iubește, locul și-l merită. Toate bune și la locul lor. Eu sunt norocul, sunt norocul și lor. Am o casă liniștită și o viață fericită. Nevasta mă iubește, locul și-l merită. Casă și un trai frumos, să le stăpânești și să fiu sănătos. Nevastă scumpă și frumoasă ca a mea, nu e pe lumea asta cât ai căuta. Să trăiască tata și măicuța ei, mi-a dat cea mai frumoasă zână între femei. Am o casă liniștită și o viață fericită. Nevastă iubește locul și merită. Toate bune și la locul lor. Eu sunt norocul, sunt norocul și lor. Am o casă liniștită și o viață fericită. Nevasta mă iubește locul și merită. Toate bune și la locul lor. Eu sunt norocul, sunt norocul și lor.
Bonsoir, excusez-nous, on était en pleine discussion. Donc je vous rappelle, si jamais vous avez envie de poser des questions ou d'appeler pendant les pauses musicales, je sais, je le dis toujours après, c'est un peu tard, mais ça sera bien pour la prochaine. Vous appelez le 01 43 71 89 40. Donc malgré mon oubli du numéro lors de cette première pause, il y a quand même un auditeur qui a appelé pour demander, selon nous, quel était l'objectif recherché par toutes ces destructions de terrain. Qui correspondent pas forcément d'ailleurs à des reconduites à la frontière. Quel est l'objectif de Valls en persécutant comme ça les Roms qui sont installés sur des terrains. Et ça rejoignait justement quelque chose que tu nous disais, Laurent.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'objectif, il est multiple. C'est-à-dire que Valls, en s'en prenant effectivement aux Roms, il désigne un bouc émissaire, et il montre effectivement que ce bouc émissaire est fragile, faible, et qu'on peut aisément le maltraiter. Il fait du chiffre. parce que finalement tous ces Roumains, tous ces Roms qui sont renvoyés en Roumanie reviennent. Ils reviennent un peu plus pauvres parce qu'ils doivent payer un passeur de nouveau pour revenir. Et c'est complètement inefficace, car bien entendu, ils vont revenir dans des conditions où ils sont encore plus en difficulté que quand ils sont partis. Mais ça n'empêchera pas le ministère de l'Intérieur de continuer à les expulser et de faire monter le chiffre des expulsions. On sent bien qu'il y a une recherche il y a une espèce de monsieur muscle qui veut montrer ses chiffres d'expulsion pour montrer qu'il est bien au-dessus de Sarko. Il y a cette volonté-là chez Valls. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose que je dirais l'administration française ne supporte pas. C'est quelque chose de l'ordre du collectif, de la collectivité, du campement, du bidonville. Et c'est vrai qu'en expulsant les campements, les familles sont de plus en plus isolées, elles sont paupérisées, elles sont rendues vulnérables, elles perdent leurs repères, elles perdent leur débrouille économique. Et finalement, on va trouver des individus de plus en plus marginalisés, en danger, en mauvaise santé, un peu partout sur le territoire. Mais par contre, les grands campements sont cassés. Et je crois qu'il y a cette idée aussi de montrer cette volonté de démolir et démanteler les campements.
Et est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans ces campements, dans la vie, la manière dont la vie s'organise? Qu'est-ce qui aurait au-delà de l'inconfort maximum, de la très grande précarité, des persécutions? Est-ce qu'il peut y avoir des regrets de ces campements une fois qu'ils ont été démantelés?
Je pense que Yasmina et Isabella vont préciser, mais les campements ne sont ni la pire des choses, c'est pas du tout l'enfer qu'on nous décrit dans les médias, ni la pire des choses, ni évidemment la meilleure. C'est pas non plus un endroit où tout le monde serait solidaire et gentil entre eux. C'est pas la réalité. Il y a aussi de l'intolérance ou de la violence ou des problèmes entre les familles qui peuvent vivre dans un même campement. Mais malgré tout, c'est un endroit où on n'est pas seul. C'est un endroit où on a au moins la force d'un collectif, et pour les enfants, c'est un milieu où il y a plein d'autres enfants et où justement ils grandissent ensemble, ils ont des jeux ensemble, ils font des expériences ensemble, ils découvrent la société française ensemble. Et je de notre expérience à nous, pédagogues sociaux, les enfants qui ont connu le bidonville et qui ne le connaissent plus sont souvent dans la tristesse et la nostalgie du collectif enfantin qu'ils ont connu. Parce qu'eux, ils se sentent très seuls dans leur nouvel habitat.
Alors, justement, toi, Isabella, tu as ressenti ça. Alors, je vais quand même te représenter. Tu es arrivée en France, tu avais...
Quand j'ai arrivé en France, oui. J'ai eu 10 ans.
Tu avais 10 ans, tu es arrivée avec tes parents.
Oui.
Donc, tu es arrivée, tu vivais sur un terrain.
Oui.
Avec ta famille.
Oui.
Et donc, ce terrain a été détruit.
Oui.
Et alors, comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'enfant?
C'était pas juste.
Et maintenant, tu es en hôtel?
Oui.
Et donc, tu es un petit peu moins une enfant. Maintenant, tu es une adolescente. Mais est-ce que tu préférais, comme le disait Laurent, cette vie, enfin, ce collectif que tu avais au camp? Quels sont les avantages et les inconvénients, selon toi, de ces deux situations? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît? Dans le fait de vivre dans le camp, dans le fait de vivre...
Sur le camp, j'aimais bien parce qu'on était tous ensemble. Mmh. Et on a eu beaucoup d'amis quand on va à l'école. Mmh. Et ils ont été avec nous, on va ensemble. Et c'est ce que j'aimais pas. Parce que la police, à chaque fois qu'ils venaient sur le camp, ils frappaient dans les portes, ils nous réveillaient. Il disait ouais, passeport, allez, et tout ça. Et il criait, il disait n'importe quoi. Et après, on disait ouais, calmez-vous. Après, il criait son nom, ouais, c'est ça, calmez-vous.
Ça, c'est arrivé souvent?
Ouais.
Quand tu dis souvent, c'est quoi? C'est chaque semaine, chaque mois, chaque jour?
Non.
C'était
un jour, après jour, et tout ça.
Ouais, c'était très régulièrement, quoi. Et malgré cette situation-là, t'as quand même un petit regret de, comme disait Laurent, de l'ambiance de groupe qu'il y avait là-bas. Mmh. Et alors justement, toi, tu es arrivée, t'avais jamais été à l'école en Roumanie.
Non.
Et donc, comment ça s'est passé pour toi l'arrivée à l'école en France? Déjà, est-ce que ça a été facile de t'inscrire? Est-ce que t'as pu t'inscrire tout de suite?
Oui, parce qu'il y avait une dame avec nous qui s'appelle Sophie.
Mmh.
Et je crois qu'elle travaillait aussi à Thermée de Robinson.
Oui.
Et c'est ma mère qui a parlé avec elle. Mmh. Et nous inscrit à l'école.
Donc ta mère avait la volonté de t'inscrire à l'école.
Mmh, oui, ma sœur.
Et elle a travaillé du coup avec l'association.
Oui.
Ouais, ta sœur, oui. Et donc tu es arrivée à l'école primaire, en CM1.
Mmh.
Et comment ça s'est passé? Parce que tu parlais français déjà un petit peu ou pas
un
encore?
Un petit peu.
Un petit peu.
Oui.
Et c'était pas trop difficile pour toi d'arriver comme ça? J'imagine qu'il y avait beaucoup de choses que tu comprenais pas, qui étaient difficiles vu que tu avais jamais été allée. Comment tu l'as vécu? Est-ce que...
Quand je suis venue en France, je savais même pas, parce que ma mère elle savait, parce que elle était la première quand elle est venue en France, donc je savais même pas.
Parler français?
Oui.
Oui.
Mais comme on demandait à chaque fois à notre mère comment c'est en France, est-ce que c'est en quoi qu'on va habiter, je sais pas quoi. Et après, elle nous disait, ouais, vous allez voir quand vous allez aller en France. Et après, elle nous a dit, et après quand on est revenu en France, on savait pas que on va habiter sur les camps, on savait pas qu'il y a plein de gens avec nous là-bas. Sur le camp et tout ça.
Parce qu'en Roumanie, vous habitiez dans un appartement?
Non, dans une maison normale.
Dans une maison? D'accord. Juste en famille, quoi. Il n'y avait pas d'habitat collectif. Oui, donc tout était nouveau pour toi. Et quand tu es arrivée à l'école, est-ce que tu as été bien acceptée par les autres enfants?
Oui.
À l'école primaire, ça allait? Donc le racisme dont tu parlais tout à l'heure, c'est plus au collège que tu l'as ressenti?
Oui.
À l'école, ça...
Non.
Tu ne l'as pas ressenti?
Non.
Et du coup, donc t'as fait 2 ans, t'as eu accès à une classe pour apprendre le français ou t'as été directement dans une classe où tout était en français?
Je suis allée directement dans une classe.
D'accord. Et t'as réussi à intégrer quand même le collège, à rattraper en 2 ans?
Oui.
Bravo.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Et est-ce que toi, quand t'es... Comment tu l'as vécu l'arrivée à l'école, puisque quand même commencer l'école à 10 ans c'est tard. Est-ce que tu aimais ça?
Bah un peu.
Qu'est-ce que tu aimais bien ou qu'est-ce que tu n'aimais pas?
Bah un peu.
Alors qu'est-ce que tu aimais pas? Qu'est-ce qui était difficile? Ouais, à l'école.
Bah j'aimais pas parce qu'on se levait très matin.
Ça c'est vrai. C'est un des problèmes de l'école. Ouais.
J'aimais pas parce que j'étais dans une classe. Mais c'est très nul.
Qu'est-ce qui était nul?
J'aimais pas parce que à chaque fois qu'on était dans une classe, ils nous prenaient dans une classe, après encore une classe, après l'anglais, tout ça.
Dès l'école primaire, tu changeais comme ça de classe?
Ouais.
Ah oui. Et si tu vas continuer donc le collège, qu'est-ce que tu as envie de... Qu'est-ce que tu attends de l'école? Qu'est-ce que tu as envie de continuer? Enfin, où
faire
tu as
plus
envie
tard.
Oui. Par exemple,
artiste.
Artiste
de peindre.
De peindre.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de peindre? Comment tu t'es rendu compte que tu avais ce goût-là pour la peinture?
Parce que je suis forte en art plastique. Et que voilà.
Tu t'es aperçu que c'était là que tu prenais du plaisir et que tu débrouillais bien.
Tu faisais les ateliers peinture avec Sophie aussi au camp. Hein, je crois qu'elle a commencé aussi par les ateliers peinture quand elle est arrivée au camp.
D'accord. Bon, beau projet. Bon courage.
Merci.
Et alors, qu'est-ce que... Je ne sais pas si vous avez d'autres...
Je peux un peu compléter. Oui. Hein, Isabella, au collège où elle est, les profs l'apprécient beaucoup et elle est particulièrement connue pour son travail, son application. Et c'est elle investit particulièrement le collège.
Ouais.
Alors il y en a d'autres qui vont beaucoup moins l'investir et qui vont justement pas s'y sentir bien parce qu'on va leur reprocher leur niveau, leurs lacunes, ou au contraire on va continuer à faire cours comme s'ils n'étaient pas là et qui finalement d'eux-mêmes s'ennuient et finissent par abandonner progressivement le collège. Isabella, elle a une autre façon de réagir. Elle s'accroche et elle va obliger les profs parce qu'elle sait aller voir les gens pour leur demander des trucs. Ça, elle sait très bien faire et elle a raison. Et du coup, elle arrive finalement à avoir du travail à son niveau qui lui permet d'avancer, de se faire connaître, reconnaître, alors qu'il y a beaucoup d'autres enfants et jeunes. En élémentaire, ils se sentent soutenus parce que il y a une cohésion, il y a un groupe classe, il y a un enseignant qui quand il est bienveillant, il est souvent quand même a quand même une véritable attention personnalisée. Mmh. Mais souvent au collège, non pas que les gens soient méchants, mais il y a beaucoup plus d'indifférence, d'anonymat. Et là, pour le coup, beaucoup de jeunes Roms passant au collège sont en grande difficulté et décrochent. Mmh. Alors le pire, c'est que ça, c'est une tradition très française. Quand les élèves décrochent, on dit que c'est leur faute, que c'est parce que c'est eux qui décrochent et qui sont décrocheurs. Ouais. Alors qu'en réalité, bien entendu, on leur a laissé aucune surface possible d'accrochage.
Mmh. Ouais, donc il faut vraiment avoir une volonté.
Il faut vraiment avoir une volonté hors du commun. Et je crois que avec Yasmina et Isabella, il y a deux personnes là, qui ont une volonté hors du commun, mais beaucoup d'autres personnes qui sont beaucoup plus partagées entre l'envie d'être à l'école, l'envie de se projeter, et puis aussi, par moments, envie de laisser tomber. Et de se débrouiller par soi-même.
J'avais lu quelque part, je ne sais pas si vous allez me dire si c'est une réalité, qu'une des difficultés rencontrées par les enfants roms à l'école, c'était l'angoisse, justement, quand ils étaient sur des terrains, l'angoisse de rentrer le soir et de plus retrouver la maison. Et que ça pouvait être tellement angoissant pour eux qu'ils n'avaient même pas envie d'être à l'école parce qu'ils préféraient, dans une certaine mesure, être à la maison avec la famille. Est-ce que, sur vous, vous avez vu ça ou c'est...
Oui.
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 Toi, tu l'as ressenti ? La peur de rentrer et de ne plus retrouver la maison
Un peu.
Là aussi, quand on propose aux jeunes de partir quelques jours, c'est vrai qu'il y a une peur de se perdre. Peur de perdre la maman, peur de plus savoir où on est.
Parce que vous organisez des séjours ?
Oui, on l'a fait à plusieurs reprises.
C'est ce que aussi on n'aimait pas sur quand on était expulsé de le camp, parce qu'ils ont séparé les familles. Ils ont mis le père l'autre côté, et les enfants et la maman, ils ont mis l'autre côté.
D'accord.
Ça aussi que on n'aimait pas.
Oui, forcément. Oui.
Ah, mais il y a eu des scènes vraiment d'un autre temps. Hein. Ce dont témoignent Yasmina et ce dont elles peuvent témoigner, c'est aussi du harcèlement, c'est aussi le fait de faire ce qu'elles racontaient. C'est des pratiques très courantes. La police débarque au tout petit matin, elle met tout le monde dehors, elle tambourine sur les portes, elle fait peur aux enfants, et tout le monde doit être dans la boue dehors, autant de temps que la police le juge nécessaire. Et évidemment, aucun moyen, surtout n'opposer aucune résistance, ne rien dire. Voilà. Ce sont des scènes plus que troublantes, ouais, qui se répètent sans arrêt.
Ouais, c'est sans
raison particulière. Sans raison particulière, parce qu'au bout d'un moment, la police s'en va. Et puis voilà. Ça s'arrête là. Il n'y avait pas plus. Et ce harcèlement, souvent, il précède les expulsions, en s'amplifiant.
Bien. On va refaire une petite pause. Alors, chanson numéro 10, Pablo. Tu te rappelles ce que c'est, Yasmina ?
Non.
Surprise.
Numéro 10.
Oui.
mine de odată și atunci când dansez parcă zici că ești posedată. Zici că ai direct bani drag în tine. Ai vine să te scânteșu și să te faci bine. Când apar fa senzație cu motorul tău cu reacție. Hai, hai pe puțin, hai, 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 puțin. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Ca mitraliera. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mișcă-te ca patera.
Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ca patera și-ți iau casă viperă.
Bombă.
Bonsoir, donc on parle autant pendant les pauses musicales que à chaque fois on se fait avoir par la fin de la pause. Alors, on était donc en train de parler des difficultés que la très grande précarité des Roumains qui vivent sur des terrains et du harcèlement policier complètement hallucinant, enfin même au-delà des moments de destruction, tu nous racontais les espèces de perquisitions où ils laissent les gens dehors dans la boue pendant des heures sans aucune raison. C'est ce que tu décrivais aussi, oui. Isabella. Donc ça, évidemment, ça ne facilite pas la scolarisation. Ensuite, une fois que le camp est éparpillé, bah forcément, l'enfant peut se retrouver, la famille peut se retrouver éloignée de l'école. Et en plus, trimballer d'hôtel en hôtel.
Oui, même comme les policiers venaient sur le camp et on voulait aller à l'école le matin, ils nous disaient non, vous rentrez. Ils ne laissaient pas. Il fallait qu'on se cache pour aller sur une autre sortie par la forêt pour sortir pour aller à l'école.
Les jours où ils venaient comme ça frapper dans le camp, avec cogné aux portes, ils vous empêchaient d'aller à l'école.
Oui.
C'est
vrai,
c'est
vrai,
Yasmine,
tu rigoles.
Non, mais on rigole, mais c'est vrai, on le sait bien.
Donc il y a cette difficulté là. Après bon bah parfois quand l'hôtel, le domicile change jour après jour, effectivement ça devient encore plus compliqué. Au moment de l'inscription c'est compliqué aussi parce que souvent il y a des mairies qui n'acceptent pas d'inscrire les enfants parce qu'il n'y a pas de domiciliation officielle. Donc effectivement, s'il n'y a pas tout un travail associatif, par exemple à Montreuil, moi j'ai rencontré une femme roumaine qui habitait en bordure de périphérique à Porte de Montreuil et qui a bataillé pendant des mois et des mois. Effectivement, après, elle a rencontré des soutiens de militants qui l'ont aidée à s'inscrire. Ça a été pour elle une énorme victoire de pouvoir enfin inscrire son enfant à l'école. Maintenant, elle a trouvé un squat ailleurs. Et du coup, elle est obligée de cacher qu'elle a déménagé pour pas que tout soit recommencé, parce qu'elle est plus sur le territoire de la même commune. Donc c'est quand même des situations, effectivement, où faut vraiment vouloir. Est-ce que de la part de vos parents, il y a cette volonté, autant que de votre part à vous, que vous alliez à l'école? Est-ce qu'ils ont envie, vos parents, en général, que vous alliez à l'école, ou est-ce qu'ils se battent avec vous pour vous envoyer à l'école, je veux dire.
Bah oui.
Ils attendent
qu'on aille à l'école.
Et tu nous parlais aussi, Laurent, du rôle un peu de soutien des enfants.
Oui, ce qui se passe aussi, c'est que les enfants qui viennent vivre en France, qui vivent avec leurs parents, souvent dans les bidonvilles, deviennent rapidement beaucoup plus familiers de la société française, beaucoup plus en lien avec l'environnement, beaucoup plus compétents sur le plan de la langue, et du coup les parents sont très dépendants des enfants. Et c'est vrai que ça crée des situations inversées où finalement ce sont parfois les enfants qui portent les parents, qui les aident, qui les guident, et donc des enfants qui vont beaucoup soutenir, beaucoup rester, et parfois en sacrifiant aussi leur propre vie, leur propre sortie, leur propre loisir,
leur propre scolarité aussi,
et éventuellement leur propre scolarité. Après, dans les questions de scolarité, la plupart des familles roumaines et roms que nous connaissons souhaitent que leurs enfants aillent à l'école, mais il faut aussi construire le sens de cette scolarisation, parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalent, c'est-à-dire que les parents n'y sont pas allés à l'école. Donc pour eux, il faut leur expliquer en quoi c'est un intérêt, qu'est-ce que cela peut apporter. Ils sont à l'écoute en général, la plupart du temps ils favorisent, ils sont plutôt partants, mais c'est vrai que le sens aussi reste à construire. Alors quand le sens est à construire et qu'en plus il y a toutes les impossibilités et les difficultés, les dénis de droit, parce que les dénis de droit sont fréquents, ils ont pu aboutir, comme Harris Orangis, au fait que le maire d'une commune ait décidé, parce qu'il était obligé d'accepter la scolarisation des enfants roumains et roms, de les mettre dans un gymnase dans un premier temps, pour ne pas qu'ils soit à l'école avec les autres. C'était le maire de Ris-Orangis qui avait décidé de les mettre ensemble dans un gymnase pour pas les mettre à la même école. Et des dénis de droit dans les municipalités, il y en a eu beaucoup de toutes sortes. La domiciliation est souvent un prétexte invoqué, mais parfois c'est les vaccins, parfois c'est n'importe quoi. Et parfois, quand il n'y a rien à invoquer, c'est un refus net, en disant on attend l'expulsion. Et c'est là qu'on voit le lien entre l'expulsion et le déni de scolarisation. C'est-à-dire que finalement, l'un s'appuie sur l'autre. On dénie la scolarité parce qu'on dit, mais de toute façon, il y aura l'expulsion, c'est pas la peine. Et finalement, ça rentre aussi dans la tête des gens qui finissent par se dire, ben oui, en effet, puisqu'on va être expulsé, à quoi bon? Et la tête des enfants aussi, qui en ont marre d'être ballottés en permanence d'un lieu à l'autre. On voit comment expulsion et déni de droit et déni d'éducation sont deux choses qui finalement s'alimentent, et ça explique pourquoi on y a sans arrêt recours.
Et alors justement, par rapport à ce dont tu parlais, le fait de donner du sens à l'école... Est-ce que le travail de votre association a aussi cet axe-là, ou c'est juste auprès... Enfin, qu'est-ce que vous faites en fait avec l'association Intermed précisément? Yasmina a commencé à nous en parler un petit peu. On l'a évoqué par bribes, mais c'est quoi le fonctionnement, les objectifs,
le but de l'association, c'est de faire de l'éducation communautaire, collective, en dehors des institutions. parce que nous partons du principe que beaucoup d'enfants de milieux populaires, et là on ne parle pas du tout de Roumains, de Roms, on parle de juste beaucoup d'enfants de milieux populaires, ne trouvent plus leur place dans les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui, dans les structures de l'éducation populaire telles qu'elles sont aujourd'hui, et finalement vivent avec uniquement les ressources de leur famille, et puis dans une forme de précarité. Le but d'une association comme celle Intermède Robinson, c'est de recréer des espaces collectifs d'éducation dans les espaces publics. Alors nous le faisons dans un quartier grand ensemble qui est celui de notre ville à Longjumeau dans l'Essonne, mais on le fait également parce que ça nous paraissait naturel, on l'a fait également dans les bidonvilles qui étaient aux alentours, dont Moulin-Galant. Et dont d'autres bidonvilles où nous intervenons. Yasmina, à ce titre-là, intervient aux ateliers de rue, qui sont donc des ateliers éducatifs de rue, qui ont lieu dans les espaces publics du quartier sud de Longjumeau, avec les enfants qui habitent ce territoire, et elle intervient également à Villebon, dans un campement qui en fait est un squat, dans une ancienne usine désaffectée, et tu vas aussi à Champlan,
oui.
Et elle va aussi à Champlan, où il y a un camp qui s'est monté.
Mais alors concrètement, ça consiste en quoi? Tu arrives comment? Tu proposes quoi? Puisque tu arrives dans un espace public, quasiment, enfin, moins dans les squats, mais ouais. Comment tu te présentes et qu'est-ce que tu amènes?
Alors, quand on arrive, on a deux tables de chaises. Mmh. On met deux tables de chaises pour l'enfant. On met le coloriage, on met à écrire, à parler aussi français. Et tous, ils sont mis à la table, franchement, comme en école. Et ils sont très concentrés sur le coloriage, sur l'écriture et à lire un petit peu, mais pas beaucoup. Mais apprendre aussi à français. Ils sont super concentrés sur cette travail. Mmh. Parce qu'ils sont même trop. Il y a maximum 5-6 qui va à l'école de Villebon, on a parlé. Et le reste, il ne va pas à l'école parce qu'il ne veut plus qu'il prend, il veut pas l'Amérique. Et de l'enfant de Villebon, il peut aller à l'école, il ne peut pas.
La mairie refuse de les inscrire.
Ouais. Mais le parent, il insiste beaucoup pour aller à l'école, mais bon. Ils refusent parce qu'ils sont encore petits, qu'ils ne parlent pas français, mais ils ne sont pas trop petits, il y a aussi de petits. Et que tout le temps refuse. Et c'est notre travail. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, on s'occupe, ils sont super. Et en plus, ils travaillent bien. Ils font du coloriage super bien, super bon. Et l'écriture aussi, il y a de l'enfant plus grand, 11, 12 ans, 14 ans, qui écrit bien, il écrit aussi. Et qu'il fait du texte en français, mais pas en roumain, juste en français. Et nous, on regarde, on est à côté de une, ils travaillent super bien.
D'accord, donc vous faites vraiment un travail pédagogique pour leur apprendre ce qui.
Et ça aide beaucoup le roumain, ça aide beaucoup le lancement de roumain et même l'autre. Ça aide beaucoup pour avancer un petit peu pour aller à l'école. Mmh. J'espère qu'il va à l'école.
Est-ce qu'il y a un peu. Un volet, disons, plus militant, entre guillemets, mais dans le sens politique, pour justement faire pression sur les mairies, faire avancer un petit peu la prise de conscience et sur ces problèmes de refus de déni de droit, comme tu en parlais.
Nous sommes en lien avec d'autres associations qui sont beaucoup plus pointues que nous dans l'accès aux droits. Mmh. C'est le cas de la SFR, qui est une association très implantée en Essonne, qui a fait un travail fantastique dans la plupart des bidonvilles de l'Essonne et qui continue à le faire, et qui est complètement spécialisée dans l'accès aux droits. Nous, notre vocation, elle est plutôt de réaliser un travail éducatif hors des lieux éducatifs.
Hein,
nous partons du principe que nous vivons une époque dans laquelle l'essentiel du travail social et éducatif se fait en dehors des institutions qui ont été pensées. C'est-à-dire que le travail social, il a tendance à se faire en dehors des structures sociales. Le travail scolaire et éducatif a tendance à se faire en dehors de l'école. Et également, la véritable éducation populaire, elle a tendance à se faire en dehors des structures d'éducation populaire. Et je dirais, la politique se fait en dehors des partis aussi.
Mmh.
Et donc, nous sommes un peu sur cette ligne-là. Mais nous ne sommes pas un peu fer de lance. Nous ne sommes pas fer de lance ni représentants particulièrement de la cause des Roms et des Roumains. Par contre, ce que nous faisons, et ça nous paraît normal, c'est nous témoignons. Dès que nous en avons la possibilité, nous témoignons. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous essayons de comprendre les mécanismes de rejet, d'exclusion. Nous essayons de comprendre comment ça se produit, et nous essayons de comprendre comment y pallier. C'est-à-dire faire un travail un peu théorique, car finalement, ce que vivent les enfants et les familles sont un peu aux avant-postes de ce que vivent et de ce que vont avoir à vivre les familles et les enfants de milieux précaires. On est dans une société qui se précarise et où ce type de situation va se renouveler.
Mmh. Bien. C'est peut-être un peu tôt pour une nouvelle pause musicale. Si, on va refaire une petite pause musicale. Alors, numéro combien, Yasmina?
14. Et 14. C'est Florine Salam.
Donc on reste.
Saint-Tropez.
Non. C'est Dimitri.
Thank you.
quand j'étais petite. Bon, elle a écouté.
Et à chaque fois, elle faisait des bêtises à l'école.
Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce que tu nous racontais, Isabelle?
Je parle de la vie de ma copine, Smélia. C'est une Smélia. Elle a 13 ans. Et c'est pourquoi pas, qu'est-ce qu'il disait Laurent, que elle est triste à chaque fois parce que elle a des problèmes, peut-être avec sa famille, ou des fois elle n'aime pas trop venir à l'école. Des fois elle me dit ouais je viens demain à l'école alors qu'elle n'est même pas là. Des fois, c'est moi qui vais me fâcher sur elle. Après, des fois, elle se nerve aussi.
Et tu sais pourquoi elle n'aime pas venir à l'école?
Parce qu'il y a des choses, il y a des cours qu'elle n'aime pas. Surtout l'espagnol, à chaque fois, elle sèche. Quoi?
Non, parce que notre technicien est prof d'espagnol, alors là, son cœur se brise.
Oui, il faut juste la convaincre. En plus, le roman, ça se rassemble. Là, j'ai plein d'élèves.
Ouais, mais moi, j'aimerais bien apprendre le cours de l'espagnol. Mais surtout que j'ai demandé à le prof qui font l'espagnol, mais il dit non. Ouais, non, désolé, je comprends pas trop l'espagnol. Il me dit Smélia, à chaque fois, elle sèche les cours d'espagnol. Et je dis, c'est bien, Smélia, tu peux aller dans le cours d'espagnol, comme ça tu apprendras et tout ça. Je dis, regarde-moi, je peux apprendre beaucoup de choses, et des langues et tout ça. Il me dit, ouais, mais surtout l'espagnol, je déteste. J'aime mieux. et j'aime pas l'espagnol parce que c'est dur à parler, et je sais pas quoi. Et il dit, c'est dur à lire et à écrire en espagnol.
Et parmi les amis roumains que tu as, il y en a, c'est fréquent, ça arrive souvent, les enfants qui, ou les adolescents qui ont du mal à s'accrocher à l'école, justement, oui. Contrairement à toi, ouais. Mmh. Et tu l'expliques comment?
Si moi je vois un élève qu'elle veut pas venir à l'école, ça veut dire qu'il aime pas l'école, il veut pas apprendre.
Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est trop difficile, parce qu'ils se sentent pas à l'aise ou pas à leur place, est-ce que c'est parce
que... Je crois que oui.
Ouais.
Bien. Parfois, on les accepte pas avec le véritable niveau qu'ils ont aussi. C'est-à-dire, le prof, il fait son cours comme si tout le monde devait comprenait. Et, ouais. Et les enfants qui ont de très, très gros problèmes, qui savent à peine écrire.
Oui.
Savent à peine écrire, et il y a un tel océan entre
eux. Oui, et des fois, ils n'arrêtaient pas de lever la main. Le prof, ils disent, faisait des efforts aussi.
Et donc, au bout d'un moment, ils peuvent s'auto-éliminer aussi.
Ouais. On va continuer notre petit tour de table parce que vous êtes loin, donc on va pas vous retenir jusqu'à 10h30. Et oui, t'es fatiguée, Isabelle. Donc on va, je vous propose chacun s'il y a quelque chose que vous aviez envie d'ajouter que. Alors Laurent.
Moi je vais un peu dire quand même le parcours de Yasmina parce que il a été quand même assez étonnant parce que voilà donc Yasmina qui est arrivée à 14 ans en France, qui voulait aller à l'école, qui découvre qu'elle ne peut pas, et nous notre association qui se met à faire des ateliers à la suite de Sophie que évoquait Isabella dans oui. des ateliers dans un camp, oui, mais notre association a été complètement perdue et paumée elle aussi parce que nous ne parlions pas un mot de roumain dans le camp, la plupart des gens ne parlaient pas un mot de français. Et finalement, Yasmina, qui ne parlait pas français non plus, nous a beaucoup aidés. Et elle s'est mise à nous aider à faire nos ateliers. Elle était tout le temps là. Elle nous a beaucoup soutenus. Et puis finalement, à force de nous soutenir, elle s'est soutenue aussi. Et donc, elle a été prendre des cours de français à la MJC de Ris-Orangis. Et puis, elle a commencé à faire du bénévolat pendant un an dans notre association où elle participait à tous nos ateliers. Puis un service civique quand enfin on a réussi à la faire accepter en service civique parce que les jeunes roumains et roms, même avant le 1er janvier dernier, alors qu'il n'y avait pas de droit de travail, eh bien ils avaient droit au service civique, mais ça a été aussi pas facile de le faire accepter. Après, il y en a eu beaucoup qui sont passés dans notre association, mais Yasmina était la première. Elle a fait un service civique d'un an. Elle a été présentée à l'Institut du service civique pour la qualité de son service civique. Elle a été lauréate, donc acceptée à l'Institut du service civique, soutenue pendant encore une année. Et puis aujourd'hui, elle termine son BAFA. Elle a fait sa formation théorique, sa formation pratique. Elle fait son perfectionnement la semaine prochaine. Et elle est permanente de notre association. Elle est pédagogue sociale à l'association Intermède Robinson. Donc c'est vrai que c'est un parcours. Il y a des parcours comme ça assez exceptionnels. C'est toujours le problème avec des parcours exceptionnels, c'est que ça met la barre très très haut et tout le monde ne peut pas suivre une telle voie. Mais en même temps, c'est aussi quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir.
Oui, et puis d'un beau contre-exemple.
Oui.
Par rapport à tout ce qui circule comme cliché, justement.
Ah ben, nous avons beaucoup de contre-exemples qui brisent tous les clichés qu'on peut raconter sur les Roms et les Roumains. Nous, comme tout le monde, on regarde la télé, mais on n'y reconnaît pas nos amis.
Quoi ? J'ai rien compris. moi, je suis sur une autre planète, hein. Vous inquiétez pas, hein. Tu peux répéter, s'il te plaît.
Je disais que beaucoup de choses qu'on raconte sur les Roumains, bah, ça ne ressemble pas du tout à ceux qu'on connaît, comme vous. Ah. Vous n'êtes pas, comme ça. T'es d'accord, t'es d'accord ou t'es pas d'accord?
Oui, c'est vrai, oui.
Heureusement que t'as dit oui. Alors, Yasmina, tu vas bien nous trouver une petite conclusion?
Alors, Yasmina.
C'est dur comme exercice.
Donne-la des cours de français et d'anglais. Elle va rien comprendre.
Bon. Quand on va finir, là, j'ai bien savoir qu'entre français et entre roumain, ça n'existe plus de différence, ça n'existe plus de racisme. Et que à bientôt, ça se passe super bien, que le roumain a aussi le droit de travailler, parce que là, on n'a pas encore droit. Et que... Enfin, ça n'existe plus de grands mots de romains. Et qu'enfin, le lancement de ville, de le terrain qui ça existe en France, ils peuvent tous aller à l'école. Parce que quand je vois un lancement qui va à l'école, je m'imagine que c'était moi. Quand j'étais petite. C'est mignon, ça.
Ouais, c'est mignon.
Et c'est juste ça, j'ai autant que savoir tout ça. J'attends très longtemps savoir tout ça. Ça n'existe plus de différence entre roumain et français. Et que tout le lanceau qui existe en France, qu'elle peut aller à l'école. Et que le parent il peut chercher un travail. Et qu'après, il va avoir un bon vie.
Tu as une petite fille?
Oui, j'ai une petite fille qui s'appelle Carolina.
Elle est très belle.
Merci.
Elle est très belle comme le ciel.
Bon, donc... Elle ne va pas encore à l'école, j'espère.
Ah non, pas encore, parce qu'il y a 12 ans, il y a eu une mort du moins. Mais en septembre, j'espère que je vois.
Ah oui, quand même, elle est grande déjà. Effectivement, elle va bientôt aller à l'école.
Ouais.
Elle est très belle.
Bien, c'était le mot de la fin. Ouais. La beauté de ta petite fille qui va bientôt rentrer à l'école. Mmh. Et
tiens, bonne nouvelle.
Qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai rien dit.
Ah. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu tordre le cou à tous ces clichés.
Ouais.
Lydie est prêt. Eh ben, est-ce qu'il nous reste un dernier morceau avant pour faire la transition? Ben, au revoir Yasmina, Isabella,
au revoir, merci
Hélène
beaucoup.
Et Laurent.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci beaucoup de votre visite.
Au revoir,
visite.
Bonne soirée.
Merci de nous avoir appris tout ça.
C'est fini, hein?
Non. On va se faire une petite pause musicale avant d'écouter la chronique livre sur l'éducation de notre Grégory Chamba, qui va revenir par une petite porte dérobée sur la polémique qu'il y a eu autour des questions de genre, de retrait et autres discours réactionnaires qui ont et nauséabonds qui ont circulé la semaine dernière. Donc voilà, sa chronique va nous ramener à cette question-là par rapport à un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Eddie Bellegueule » d'Edouard Louis et qui parle des...
C'est qui ?
C'est un jeune qui a eu beaucoup de problèmes à l'école, de rejet... Non pas parce qu'il était roumain, mais parce qu'il était homosexuel. Et du coup, il a été très, très, très embêté. Voilà, parce que...
tu veux pas
donc,
dire ça,
tout
tu
le monde ricanait,
gay.
comme tu viens de le faire.
Gay.
Et bien pire. Il était gay, oui, gay, voilà. Homosexuel. Mais en tout cas, il l'a très mal vécu, et ça a été difficile, et il a écrit un livre.
Est-ce que je peux poser une question?
Bien sûr.
Je vais te dire parce que gay, c'est... En fait, il y a deux phrases. Il y a aussi que joyeux.
Oui, il y a deux sens.
Et il y a aussi... Voilà.
En fait, gay, c'est un mot anglais.
Oui, je sais.
Ouais.
En fait, voilà. Voilà. Gay,
en anglais, c'est à dire exactement la même chose. Bon, voilà, on va donc, mettre une pause musicale pour dédier à.
Et vous dormir, lui.
Votre fille. Isabella.
Et Carolina.
Pour Carolina. Et puis après, Julie, normalement, devrait arriver pour nous parler du Maroc et de la répression.
Maroc.
Du pays, le Maroc, et de la situation de répression que subissent les étudiants là-bas. Voilà. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci. Au revoir.
Ragadam, dagat, dagat, bats, cats, dagat, 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 bats, ragadam, dagat, dagat, bats, cats, dagat, 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 dagat, dagat. Dagat, bats, cats, dagat, dagat, dagat.
Bonsoir à toutes et à tous. Si j'avais initialement prévu de profiter de la présence de Laurent Roth dans ses studios pour présenter son nouvel ouvrage « Intervenir auprès des enfants en situation de rue », j'ai finalement, au regard de l'actualité, opté pour un autre choix et décidé pour cette chronique de revenir sur l'odieuse et nauséabonde affaire de la journée de retrait, orchestrée par les réseaux d'extrême droite, mais relayée bien au-delà des rangs traditionnels de ces apprentis fascistes. D'autant que l'actualité littéraire m'en procure l'opportunité avec un récit qui, en ces temps de réaction, nous offre le réconfort d'être en tête des ventes ces dernières semaines. Il s'agit de « Pour en finir avec Eddie Bellegueule » d'Édouard Louis, premier roman d'un tout jeune écrivain d'à peine 21 ans, actuellement étudiant à l'école normale supérieure. Parce qu'il est différent, parce qu'il est efféminé, parce que son homosexualité le torture, Eddie est en proie à la violence, au rejet, au mépris de sa famille et de son village picard, victime d'une culture de classe dont l'oppression et l'humiliation ne nourrissent pas la solidarité et la révolte, mais engendrent à leur tour humiliation et oppression. En vérité, précise Édouard Louis, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite, j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre. Ce que veut comprendre Eddie, c'est pourquoi le petit PD doit se faire tabasser quotidiennement dans les couloirs du collège, se faire cracher dessus et humilier au nom de valeurs abjectes et rétrogrades. Pourquoi cette scène qui s'est répétée chaque jour pendant 2 ans jusqu'au départ de ces 2 bourreaux? Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais. Si c'était bien moi, Bellegueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années. C'est toi le PD? En la prononçant, il l'avait inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L'impossibilité de m'en défaire. C'est la surprise qui m'a traversé, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure, un sentiment d'impuissance, de perte d'équilibre. J'ai souri, et le mot « PD » qui résonnait explosait dans ma tête, palpitait en moi, à la fréquence de mon rythme cardiaque. Eddie Bellegueule évoque immédiatement le fameux retour à Reims de Didier Ribon, à qui d'ailleurs l'ouvrage est dédié. On songe aussi à l'école des ouvriers de Paul Willis, ici chroniqué, pour son décryptage des valeurs ambiguës d'une jeunesse ouvrière où se mêlent contestation de l'ordre établi et défense de ses valeurs les plus réactionnaires comme le racisme ou le sexisme. Parce que la domination s'est distillée au sein même des actes et des pensées des dominants, les mécanismes sociaux de sa perpétuation. Lire pour en finir avec Eddie Bellegueule, c'est comprendre ce que l'éducation à l'égalité, la déconstruction des stéréotypes à l'école, auront toujours de scandaleux pour les fachos de tous bords. C'est comprendre aussi ce que l'homophobie révèle d'une société. Le fait d'aimer les garçons transformait l'ensemble de mon rapport au monde, me poussait à m'identifier à des valeurs qui n'étaient pas celles de ma famille. Au collège, tout a changé. Je me suis retrouvé entouré de personnes que je ne connaissais pas. Ma différence, cette façon de parler comme une fille, ma façon de me déplacer, mes postures, remettaient en cause toutes les valeurs qui les avaient façonnées, eux qui étaient des durs. Un jour, dans la cour, Maxime, un autre Maxime, m'avait demandé de courir, là, devant lui et les garçons avec qui il était. Il leur avait dit « Vous allez voir comme ils courent, comme une pédale », en leur assurant, leur jurant qu'ils allaient rire. Comme j'avais refusé, il avait précisé que je n'avais pas le choix. Je le paierais si je n'obéissais pas. Je t'éclate la gueule si tu le fais pas. Mais ce livre, sa description d'une classe opprimée et aliénée, permet aussi de comprendre ce que les discours émancipateurs sur le rôle de l'école peuvent avoir de futile. Bakounine le disait déjà. J'aime beaucoup ces bons socialistes bourgeois qui nous crient toujours « Instruisons d'abord le peuple et puis émancipons-le ». Nous disons au contraire qu'il s'émancipe d'abord et il s'instruira de lui-même. Mais Eddy rappelle en même temps ce que l'éducation peut avoir d'essentiel et nous fait toucher du doigt toute l'ambiguïté de cette institution. Pour sa famille, ne pas aller à l'école et rester à la maison est une récompense, mais aussi une vengeance, le sentiment d'avoir un pouvoir contre cette institution maudite. Sa mère le lui répète souvent. « Ah, celui-là, il a beau être fort à l'école, il n'est pas malin. » À l'inverse, Eddie déclare « J'étais prisonnier entre le couloir, mes parents et les habitants du village. » Le seul répit était la salle de classe. J'appréciais l'école, pas le collège, la vie du collège. Il y avait ces 2 garçons. Mais j'aimais les enseignants. Ils ne parlaient pas de gonzesses ou de sales pédés. Ils nous expliquaient qu'il fallait accepter la différence, les discours de l'école républicaine. que nous étions égaux. Il ne fallait pas juger un individu en raison de sa couleur de peau, de sa religion ou de son orientation sexuelle. Cette formule « orientation sexuelle » faisait toujours rire le groupe de garçons au fond de la classe. On les appelait la bande du fond. Cette lecture est bien une manière d'éclairer aussi le succès du boycott dans les quartiers populaires. S'il a dépassé le seul cadre des cercles traditionnalistes, c'est aussi parce que les ambiguïtés de l'école, entre émancipation et perpétuation de l'ordre établi, disent quelque chose du rapport des dominés à l'institution, quelque chose qu'il faut entendre, quelque chose qui questionne la prétention actuelle du système éducatif à parler d'égalité. Voilà, vous pouvez retrouver sur le site de la revue Notre École, à la rubrique audio et vidéo, toutes les références des ouvrages présentés ici, ainsi que l'intégralité de cette émission des syndicats CNT Éducation. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures.
Bonsoir, donc je me retrouve bien seule dans le studio après le départ de nos invités qui étaient venus nous parler des questions de scolarisation des enfants roumains. Donc on va bientôt enchaîner sur la partie internationale avec Julie du secrétariat international de la CNT qui vient d'arriver. En attendant qu'elle s'installe, je vais vous dire un mot simplement rapide du programme de la semaine anticoloniale qui est plutôt une quinzaine qu'une semaine, et même davantage d'ailleurs. Donc ça a déjà commencé, l'ouverture a eu lieu le 7 février, mais ça va gagner en intensité rapidement, puisque je ne vais pas donner le programme en détail, vous pourrez le retrouver sans problème en tapant « programme semaine anticoloniale » sur Internet. Mais juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, par exemple, le vendredi 14 février, il y a la projection d'un film de Sembene Ousmane, le camp de Tiaroy, à la Maison de l'Afrique. Le samedi 15 et le dimanche 16, il y a le salon anticolonial à la Bellevilloise avec des livres, des débats, des musiques, et puis le fameux désormais prix de la France-Afrique, décerné aux plus grands coloniaux du moment. Le 17 février, il y a un débat sur la montée des violences raciales. Le 18 février, un débat sur BDS. Le 21 février, il y a un hommage au groupe Manoukian. Et puis le 1er mars, je vais très vite, je ne vais pas vous donner l'intégralité du programme, mais il y a la manif anticoloniale et antiraciste le 1er mars, 14h, à République. Voilà, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous allez sur Internet, le programme de la semaine anticoloniale, tout simplement. Vous trouverez toutes les informations, tous les lieux, tous les horaires, et tous les débats, projections et autres événements. Voilà. Je vous propose également, je vous rappelle également, pardon, que Radio Libertaire ne vit d'aucune publicité ni subvention, qu'elle a donc besoin du soutien de ses auditeurs. Donc pour la soutenir, outre le fait bien sûr de l'écouter, vous pouvez prendre votre carte d'auditeur en vous rendant à la librairie Publico, 145 rue Amelot, à Paris dans le 11e. Vous pouvez également le soutenir en allant sur le site de la radio, sur Internet. Sur ce site, vous pouvez également télécharger l'émission pendant 2 semaines. Émission, comme vous l'a dit Greg, qui sera également téléchargeable sur le site de notre école et sur le site de Questions de classe. D'ici quelques jours, ce sera mis en ligne. Voilà, si vous avez loupé une partie de la discussion sur la scolarisation des Roms, je vous conseille de retourner la télécharger là-bas pour l'écouter tranquillement, à votre rythme, quand vous voulez. Voilà, Julie s'installe, Julie prend place. Donc Julie, secrétariat international de la CNT.
Bonjour.
Bonsoir. Alors, c'était la course parce que t'avais déjà commencé la soirée ailleurs.
Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. J'étais avec l'association marocaine des droits de l'homme qui organisait une conférence et donc on en parlera. Je sais pas si on fait une petite pause avant ou j'enchaîne.
Bah écoute, si t'es prête, vas-y, ma foi.
Ouais. Donc d'abord, on va parler des étudiants marocains de Kenitra. Donc c'est une ville au nord de Rabat qui ont subi une grosse répression fin janvier. Donc des étudiants pour qui on s'était mobilisé à la Fédération l'éducation de la CNT en soutien depuis plusieurs années par rapport aux mouvements qu'ils sont en train de mener. Il se trouve que donc un mouvement étudiant pour un accès aux bourses, un accès au logement social, un accès aux restaurants universitaires et surtout contre la sélection à l'entrée au master. Donc voilà, donc ils se sont mobilisés en janvier, sachant que c'est aussi des étudiants qui se mobilisent au sein du mouvement du 20 février dont on a déjà parlé les émissions précédentes. Un mouvement qui s'est lancé en 2011, un soulèvement populaire où il y avait des habitants, des chômeurs, des étudiants, enfin des travailleurs, etc. Contre ben, les conditions de vie actuellement au Maroc, contre la précarité et pour une justice sociale. Un mouvement qui a été beaucoup réprimé et qui continue de mener des actions. Les étudiants dont on va parler, ils sont donc de Kenitra et donc ils ont mené des grèves fin janvier et une grosse répression, dont 4 arrestations toujours ciblées. Donc c'est les syndicalistes de l'UNEM, syndicat étudiant. 4 arrestations. Ensuite, il y a eu donc un sitting, un rassemblement pour leur libération, qui s'est traduit aussi par une arrestation de camarades aussi de l'UNEM. Donc finalement, ils sont 5 aujourd'hui arrêtés depuis le 20 janvier. Et bon, faut savoir que ces étudiants ont été recherchés depuis pas mal de temps. Parmi
à cause de leurs activités syndicales, voilà, dans le cadre de la
fac. À cause
fac.
De leur militantisme. Et, et les 4 autres font partie d'étudiants qui ont été arrêtés l'année dernière et pour qui on s'était mobilisé en soutien. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est coup classique. Ils sont arrêtés, passage devant le procureur dans un état physique. Ils ont passé une nuit de torture, coup classique quand même au Maroc aujourd'hui. Des conditions de répression du mouvement social est toujours aussi fort. Et il devait y avoir un procès. Donc là, ils n'ont toujours pas eu leur procès. Ils sont accusés d'attroupement, organisation de groupes armés. Donc voilà, c'est des accusations quand même qui sont assez lourdes. Au Maroc, comme tout le monde le sait, la justice n'est pas du tout indépendante. Et les procès préfabriqués avec des accusations, que ce soit de trafic de drogue, de violence sur personne, d'attroupement armé, etc., font partie des accusations non prouvées, mais pour lesquelles les gens sont condamnés. Et qui, en fait, la plupart du temps, c'est pour des actions militantes, quoi. Il devait y avoir un procès le 4 février, qui a été reporté à aujourd'hui. Procès qui a encore une fois été reporté au 25 février. Donc ils sont à la prison de Kenitra. Faut savoir aussi que on présente le Maroc soi-disant avec Mohamed VI, les conditions se sont améliorées, conditions sociales, etc., et même au niveau ouverture démocratique, etc. Ce qui n'a rien changé avec son père, Hassan II. Et par contre, la différence avec son père, c'est que quand les personnes sont en prison, continuent de subir la torture. Ce qui n'était pas le cas sous Hassan II, où les gens étaient dans des centres d'arrestation un peu clandestins, mais qui pendant très longtemps ils étaient torturés avant de passer en prison. Là, les prisonniers aujourd'hui au Maroc continuent d'être torturés en prison. Le procès est reporté au 25 janvier. Il sera encore certainement reporté. Ils ont fait une grève de la faim pendant 5 jours, qui a été arrêtée. Les avocats ont demandé une libération provisoire qui a été refusée. C'était aussi pour passer un message de soutien là, à la radio, à Abdelrezek, Abdelrahim, Zakaria, Ismaël et Karim qu'on connaît, et qui sont emprisonnés. Et qui sont emprisonnés aussi comme beaucoup de Marocains. Il y a quand même plus de 200 prisonniers politiques aujourd'hui au Maroc.
Combien ? 200 ?
Plus de 200 prisonniers politiques. Donc, comme je disais, avec des